Au quotidien, avec Hélène Denis.
C'est la mi-avril, ou presque, 14 avril 2026, mais il n'y a pas de 31 avril. Il y a eu un 31 mars, il y a eu un 31 mai. Et puis, il y a de la pluie. Et en ce moment, c'est plutôt nuageux, mais au moins, la pluie va faire disparaître cette neige qui ne finissait plus de tomber. Me regarder dubitatif, Mathieu Tessier?
Ça fait un petit bout que j'ai pas vu de neige.
Oui, mais dans la grande région de Montréal, mais ailleurs, il en reste un peu. Malgré que pour ceux et celles qui mangent la neige, la tire sur la neige, bien d'en avoir.
C'est vrai.
Oui, oui. Mais les propriétaires de cabanes à sucre ont plus d'un tour dans leur sac.
Est-ce que ça a été une bonne année?
Ils en congèlent. Paraît-il que non. Non. C'est malheureux, mais il y a quand même les cabanes à sucre qui fonctionnent, puis les gens qui se rendent. Mais pour le sirop, là, c'est pas la grosse affaire pour cette année. En tout cas, on va voir ça à la fin de la saison, là, parce qu'on est encore dedans quand même. Bon, là-dessus, bonjour à tous et à toutes. À l'émission, aujourd'hui, nous allons parler de cinéma avec la directrice de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma, 44e édition cette année qui prend son envol le 22 avril. Et on en parlera avec Laura Rohard. Également au menu, la chronique économie avec Michel Poitevin qui, lui, va s'intéresser aux conséquences de l'augmentation des prix du pétrole. Un examen plus approfondi, signé Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. La chronique livre aussi avec Anne-Marie Aubin. Anne-Marie qui a lu deux livres difficiles mais importants, Sortie de nuit par Marie Gagnon et Ressac, un livre signé Linda Dion. Alors, voilà le menu pour aujourd'hui, puis j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. On commence avec une belle vieille chanson qui vieillit très bien, comme vous, Mathieu. Jean Leloup, Voyageur.
Ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. Dans la gare, de nulle part, tu attends ton prochain départ. Où elle n'y sera pas, celle que tu cherches, et qui n'existe pas, et qui n'existe pas. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la mort qui grimace. C'est la mort qui grimace. Sombre est ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. À travers la vitre embuée, tu vois le paysage qui défile. Les poteaux de téléphone et les fils, et enfin les champs de blé qui te prennent à rêver. Qui te prennent à rêver. Te rappelles-tu la table en fleurs? Ta mère et tes sœurs, ton père et son déshonneur. Sombre est ta solitude de voyageur, comme tu pleures, pauvre déserteur. Et soudain tu sens la douleur, et soudain tu sens ton cœur. Il ne te reste plus que quelques heures, voyageur. Bientôt tu meurs, bientôt tu meurs. Après-demain comme avant-hier, tout retourne à la poussière. Et ne subsiste que le destin de tes passages dans les trains. De ton visage et du sien, de tes pas sur les chemins. Dors tranquille, ce n'est rien, juste un voyage, juste un peu plus loin. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois la mort en face, c'est la vie qui grimace. Et toujours toujours le temps. Quoi, quoi, corbeau qui passe dans le ciel, dis-moi, où sont les hirondelles? Tu vois la mort, quoi, quoi, corbeau qui passe dans le ciel, dis-moi, où sont les hirondelles? Nous étions quoi, corbeau qui passe dans le ciel, dis-moi, où sont les hirondelles? Quoi, quoi, corbeau qui passe dans le ciel, dis-moi, où sont les hirondelles? Nous et toujours les hirondelles.
Voyageurs, une chanson de Jean Leloup.
À la une de la presse, aujourd'hui, le PLC victorieux aux élections partielles, les deux mains sur le volant. Les coups des franges pour les libéraux, Antoine Trépanier qui écrit « Le Parti libéral du Canada a remporté 3 élections partielles et devient majoritaire à la Chambre des communes un peu moins d'un an après avoir reçu un mandat minoritaire des Canadiens. » Mark Carney entre officiellement dans l'histoire canadienne. Son gouvernement est le premier à passer de minoritaire à majoritaire en cours de mandat au Parlement du Canada. Le Parti libéral du Canada a remporté les circonscriptions de Terrebonne, University, Rosedale et Scarborough-Sud-Ouest lundi soir lors de 3 élections partielles, lui donnant ainsi 174 sièges et la majorité à la Chambre des communes. Seul William Lyon Mackenzie King avait vu son gouvernement changer de statut après des élections générales. C'était après celle de décembre 1921, lorsque les libéraux étaient à cheval entre la minorité et la majorité. Les décès, les démissions, les élections partielles et les changements d'affiliation ont brisé la majorité libérale, rappelle la bibliothèque du Parlement, celui qui a gouverné le plus longtemps dans l'histoire du pays, est parvenu à s'accrocher grâce à l'appui des progressistes. Et à l'instar de Mackenzie King, Mark Carney a eu besoin de l'appui des progressistes, mais aussi beaucoup de celui des conservateurs pour avoir sa majorité. Autre titre à la une de la presse plus, Christine Fréchette, un exercice d'équilibriste en vue. Paul Journet, première ministre, cherche rupture harmonieuse. Et Nathalie Collard, femme en politique, toujours trop ou pas assez. Christine Fréchette, retirer la TVQ sur certains produits à l'épicerie, comme promis, sera une annonce rapide et simple pour elle, pour Christine Fréchette. Mais former le Conseil des ministres, ça va être un exercice d'équilibriste, ça c'est sûr. Reconnaît la première ministre désignée. Le sort de Simon Jolin-Barrette est incertain et son projet de constitution paraît voué à l'échec, écrit Tommy Chouinard et Fanny Lévesque. Fraîchement élue, la successeure de François Legault a tenu sa première conférence de presse en fin d'après-midi lundi dans l'édifice Honoré Mercier, dont elle est la nouvelle locataire. Son premier défi, rétablir l'unité du parti après un duel fratricide. En matinée, elle a eu une première discussion avec Bernard Drainville qui a accepté de se rallier à elle dans un message sur les réseaux sociaux. « Je veux l'assurer de mon appui. Elle sera une première ministre rigoureuse et déterminée », a-t-il écrit. Il était parti en coup de vent du congrès du parti après le discours de victoire de Mme Fréchette. « On va travailler tous les deux à l'unité du parti. C'est vraiment crucial », a affirmé la nouvelle chef. Ils ont eu un autre entretien en soirée. Christine Fréchette a sondé ses intérêts en vue de la formation de son cabinet ministériel dont la composition sera annoncée la semaine prochaine. À la une du Devoir, on voit une photo de Christine Fréchette qui promet des actions rapides. La nouvelle première ministre désignée se préoccupe du portefeuille des Québécois et de Bernard Drainville, avec qui le dialogue est ouvert, dit-elle. Christine Fréchette annoncera dès les prochains jours des mesures visant à tirer vers le bas les coûts à la fois du panier d'épicerie et d'une première propriété. Carney franchit le Rubicon de la majorité parlementaire. Le Parti libéral du Canada a remporté les 2 élections partielles de la grande région de Toronto lundi soir. C'est à la une du Devoir. Et aussi à la une du Devoir, littérature, Kev Lambert à la Sorbonne. Son roman « Querelle de Robert Val » paru en 2019 est au centre d'un cours de théorie littéraire donné à la Sorbonne ce semestre. Debout sur la scène du grand amphithéâtre Richelieu, dans l'enceinte historique de la Sorbonne, Kev Lambert entame sa présentation en revenant sur la genèse de ses principaux romans. Elle passe rapidement aux questions sans s'attarder sur sa biographie. Son auditoire l'a déjà longuement étudiée. face à la Québécoise sur les bancs de bois notoirement inconfortables de l'amphithéâtre, 300 étudiants en littérature se préparent à la criblée de questions composées à l'avance avec leurs enseignants, inscrits à un cours obligatoire pour l'obtention de leur licence, l'équivalent français du baccalauréat. Ils se penchent depuis 3 mois déjà sur « Querelle de Robert Val », premier succès de l'autrice en France, qui a ensuite gagné un prix Médicis pour « Que notre joie demeure » en 2023. Le roman a servi de base à notre cours d'analyse de discours précise de l'universitaire Eduardo Cagnan, le maître de conférence responsable du cours. Le but est d'analyser l'utilisation subjective de la langue dans le texte en utilisant beaucoup de notions de sociologie. Avec son récit ancré dans la lutte syndicale et sa narration à plusieurs voix, explique l'universitaire, Querelle de Robert Val constituait un socle pour l'examen sur ces sujets. En marge des cours magistraux, les étudiants se sont réunis chaque semaine pour analyser le texte en petit comité, sous la supervision de 5 chargés de cours. Pour les étudiants français, inévitablement, le cours a aussi été une introduction à la littérature québécoise. Et puis, à la une du Journal de Montréal, le tribunal rappelle à l'ordre une ambassadrice du Canada obligée de payer ses impôts au Québec, nommée par Justin Trudeau. Marie-Thé Legault a été ambassadrice à la Barbade. L'ex-ambassadrice vient d'être rabrouée par une juge après avoir refusé de payer ses impôts au Québec. Elle estimait avoir coupé ses liens avec la province, dont elle dit se tenir loin.
Je marcherai pieds nus et je desserre les poings.
Marianne Roy, le ciel est en place.
Les 44e rendez-vous Québec Cinéma approche à grands pas. Ça va se dérouler à partir du 22 avril et ce jusqu'au 30 avril, un petit peu partout, à la Cinémathèque québécoise, au Cinéplex Odéon Quartier Latin, au cinéma du Musée, au cinéma du Parc, à la Société des arts technologiques, au Théâtre Outremont, au Théâtre à la Nice Obom-Sawin de l'ONF à Montréal, donc. Et pour en parler, ben, j'accueille la directrice de la programmation des Rendez-vous Québec Cinéma, Laura Roard. Bonjour, Laura.
Bonjour, Hélène.
Ça fait combien de temps que vous êtes directrice de ce festival?
Ça fait à peu près deux ans. Deux ans.
Vous êtes toujours bien?
Oui.
Ouais.
On a hâte, là, c'est ça. Peu à peu, on prend ses marques. Je prends mes marques, plutôt. Je prends mes marques avec l'équipe et avec ce beau festival.
Alors, ben, parlez-nous d'abord de la mission des Rendez-vous Québec Cinéma.
Les Rendez-vous, c'est une grande fête. C'est la grande fête du cinéma québécois. L'idée, c'est effectivement de rassembler le milieu, la communauté de cinéastes, de documentaristes, d'artisans, d'artisanes.
Et les cinéphiles.
Les cinéphiles, évidemment. Ça, l'idée, c'est de proposer, dans le fond, une rétrospective de films québécois sortis dans l'année, avec des premières, avec des événements. L'idée, c'est d'événementialiser nos projections. Et c'est ça, de rassembler, de créer un moment de partage entre artisans, artisanes et notre public, en fait.
Alors, vous ne présentez pas que la production de 2025, là?
Non, on a des premières aussi. On a pas mal de premières cette année. Des tapis bleus.
Tapis bleus, c'est quoi ça, des tapis bleus?
C'est comme nos grosses premières. Là, on a des belles grandes salles avec effectivement littéralement un tapis bleu, un media wall. Les journalistes sont invités.
Qu'est-ce que vous allez présenter lors de cet événement-là?
On en a quatre cette année. On a un petit peu resserré cette section-ci. Puis on a trois documentaires et une fiction. Donc, on commence avec le documentaire de Valy Fugulin, À pied, qui est distribué par Maison 4 tiers, qui est un très beau film, dans le fond, une espèce de quête spirituelle initiatique sur la marche.
Voilà. Oh, sur la marche!
Sur la marche. Sinon, on a aussi Là où tout se rassemble, de Guillaume Langlois, qui est une très belle correspondante. Ben, dans le fond, c'est un film où c'est un chassé-croisé entre des élèves autochtones de Pessamite et des élèves allochtones de Saguenay qui commencent une correspondance. C'est un film qui a été tourné sur plusieurs années avant la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie. Mm-hmm. Voilà, c'est comme, dans le fond, on suit ces élèves-là qui apprennent à se connaître, à défaire aussi des préjugés, à...
C'est ça. Donc, c'est dans le cadre
des tapis bleus, ouais.
Des tapis bleus, ouais. Parce qu'il y en aura quatre.
Il y en aura quatre.
Il y a beaucoup de courts-métrages. Vous vous présentez plus de 100, même 140. J'ai lu 140.
120. 121.
Oh, 120, OK. Ouais. Mais c'est déjà bien. C'est quand même pas mal. Oui. Mais qu'est-ce que vous aimez dans le court-métrage? Pourquoi vous voulez mettre le court-métrage en lumière, de l'avant?
Parce que le court-métrage mérite. Je pense qu'on a une culture du court-métrage au Québec qui est très forte. On le voit à l'international. On vient de remporter un Oscar du meilleur court-métrage d'animation en février passé, au mois de mars passé, pardon. Mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui se démarque beaucoup, qui est assez reconnu à l'international. On a une force, c'est ça, je trouve, de créativité, d'inventivité au Québec, et on a beaucoup de très bons courts-métrages.
Est-ce que celui qui a remporté l'Oscar va être présenté?
Oui, absolument.
Bon, le titre m'échappe, là, je sais qu'il y a plein dedans.
La jeune fille qui pleurait des perles.
Oui, quel beau titre.
Quel beau titre, une production de l'ONF. Et puis sinon, on a une soirée dédiée au court-métrage dans le cadre des rendez-vous le 25 avril avec le combat des cours qu'on avait déjà l'an passé, qui est donc modelé sur le combat des livres de Marie-Louise Arsenault.
Donc, un animateur, une animatrice, des participants
qui débattent.
Un lauréat, une lauréate.
Exactement.
Oui, voilà. Mais c'est bien. Le public est invité.
Absolument.
Oui, le 25 avril, c'est un samedi.
Samedi soir, à la Cinémathèque. C'est gratuit. Ah, tout le monde est plus que bienvenu. Puis c'est ça, c'est pour célébrer le court-métrage et en faire une belle soirée.
Vous proposez pas mal de films gratuits, hein, je pense.
Oui, quand même. On a aussi développé un tarif solidaire cette année. Fait qu'on a une dizaine de séances où, effectivement, le tarif est à moitié prix. Fait que c'est des séances... on en a une petite dizaine. Sinon aussi, on a le combat des cours est gratuit. Donc ça, c'est tous les événements qui sont gratuits. Mm-hmm.
Les leçons de cinéma?
Absolument aussi, c'est gratuit.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Moi, j'adore ça, des leçons de cinéma.
Oui, ça, c'est quelque chose, c'est ça. C'est vraiment une tradition au rendez-vous. L'idée, c'est d'accueillir, dans le fond, un cinéaste ou un artisan, une artisane. Quelqu'un qui s'est démarqué dans l'année, quelqu'un qu'on aime, qu'on a envie de recevoir. C'est, dans le fond, l'idée de revisiter le parcours, la carrière. d'un ou une cinéaste. Donc cette année, on reçoit Philippe Brault, qui est compositeur de musique de film, qui a gagné l'Iris pour Berger cette année.
Oui.
Et puis on reçoit deux femmes irrévérencieuses, fortes, et dont les films ont très bien fonctionné, c'est ça, dans les derniers temps. Donc on reçoit évidemment Anne Aymon, le vendredi 24, qui a accepté l'invitation. Et on reçoit aussi Anaïs Barbeau-Lavalette, qui sortira son film Pauline Julien cet automne. Voilà, c'est des grandes figures du cinéma québécois qu'on est très honorés de recevoir dans le cadre de ces leçons-ci. Ce sera animé par Ariane Cipriani. Et puis, et voilà, c'est vraiment un petit 75 minutes où on, c'est ça, on discute un petit peu de l'œuvre, de c'est ça, du fil conducteur peut-être de la filmographie de ces cinéastes. Et puis pour Philippe, c'est ça, ça sera peut-être aussi l'occasion de démystifier un peu ce travail de composition qui est très, qui est des fois aussi, c'est ça, peut-être un petit peu sous le radar, alors que ça apporte tellement à une œuvre.
Ouais.
Et voilà, c'est quelqu'un qui voilà.
Quand c'est bien fait, ça peut être tout à fait magique.
Oui, puis c'est vraiment un grand nom aussi de la musique de film, Philippe Brault, fait qu'on est très contents.
Et cette leçon-là, cette rencontre-là sera animée par Félix B. Desfossés.
Oui, absolument.
Et vous avez évoqué le nom d'Anne Aymon et c'est impossible de ne pas parler de son film parce que depuis quelques jours, les Rendez-vous Québec Cinéma sont sur la sellette à cause de cette idée qui sera concrétisée lors d'une projection d'un film d'Anne Aymon, Amour Apocalypse, son plus récent. Le film sera projeté en vitesse accélérée. Alors, ça veut dire quoi exactement, Laura? Pourquoi on rue dans les brancards? Il y a même le cinéaste François Delisle qui a annoncé le retrait de son film Le Temps, qui devait être présenté au rendez-vous à cause de cette décision.
Le film de Anne Aymon est projeté deux fois, donc, dans le cadre de rendez-vous, une fois à vitesse normale. Et effectivement.
Mais c'est quoi vitesse accélérée? Vitesse accélérée.
Dans le fond, c'est ça. On reprend les codes de la Gen Z qui est finalement de pouvoir accélérer un contenu vidéo.
Pas seulement que des bouts.
Non. Je veux dire l'intégralité, mettons. Ouais. C'est-à-dire quand vous allez sur n'importe quelle plateforme de streaming, YouTube, mettons, pour ne pas la nommer, c'est ça. Il y a toujours la possibilité de regarder ça un petit peu plus vite. Je pense que c'est une des tendances qu'on observe chez la Gen Z. Et finalement, on s'est dit qu'on allait reprendre à notre compte ce code-ci de la génération des plus jeunes pour en faire une expérience et, dans le fond, accélérer le film de Anne Aymon, Amour Apocalypse.
Ouais.
Donc, au lieu de faire 100 minutes, il fera 66 minutes.
Dans le but, quoi, d'attirer la jeunesse qui regarde leur film comme ça?
Alors, si on remet les choses en contexte, dans le fond, c'est une initiative qui se raccroche à notre campagne. Notre campagne, cette année, on l'a voulu un petit peu plus audacieuse. Et le slogan de cette année, c'est « Les grands films, ça mérite un grand écran ».
Oui.
Donc, l'idée, c'est ça. C'est parce que les jeunes regardent des films ou des contenus sur leur cellulaire. Ils regardent donc des contenus en accéléré. Des fois aussi, ils regardent des films en plusieurs morceaux sur TikTok. Fait qu'on s'est dit qu'on allait reprendre à notre compte ce code-ci. Puis,
Mais voilà. Je me dis, vous mettez de l'avant justement cette belle idée de regarder un film sur grand écran et de l'autre côté, venez le regarder sur grand écran, puis ça va aller vite, en tout cas pour un film.
C'est juste, dans le fond, l'idée. Nous, ce qu'on cherche à valoriser, c'est effectivement l'expérience en salle, l'expérience d'un film à vitesse normale, bien entendu. Je veux dire, on ne cherche pas à dénaturer quoi que ce soit. Un film, ça se regarde, on défend l'intégrité des œuvres qu'on présente, ça c'est... On le répétera jamais assez. C'est juste simplement pour amener en fait notre public à aller à une table ronde qui suit la projection à 1.5, qui porte en fait sur justement ces fameuses ces phénomènes qu'on observe chez la Gen Z, ces tendances de consommation de contenu effectivement sur son cell en 1.5 ou des fois même plus vite. Comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça affecte notre façon de regarder des films, de consommer des œuvres.
Qui va participer à cette discussion là?
Alors c'est animé par Mounir Kadouri, le maire de Laval, donc qui est un créateur de contenu sur YouTube.
Ah oui, pas le vrai maire de Laval, mais
pas
c'est
le vrai maire de Laval. Mais c'est ça, Mounir Kadouri, qui justement participe à un projet avec l'ONF de documentaire. Et on aura autour de la table, plusieurs, effectivement, je pense qu'on voulait mettre un petit peu de chair sur l'os et avoir une discussion pour creuser un peu ce qui se passe et comment ça affecte, donc c'est ça, notre manière de consommer des longs métrages. Mm-hmm. Donc, on aura Ariane Brunet, qui est créatrice elle-même de contenu, humoriste, et puis Bruno Dequin, qui est critique de cinéma. Et on attend aussi la confirmation d'une dernière personne, peut-être plus du côté académique. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de remettre les choses en contexte. Cette projection 1.5, elle sert finalement de levier pour amener les gens à assister à cette table ronde-là et en fait, réfléchir à porter un regard critique sur ce qui se passe en ce moment et pourquoi est-ce qu'on est tous collés à nos cellulaires alors que nous, ce qu'on veut, c'est finalement simplement attirer les jeunes en salle, leur faire vivre une expérience, qu'ils aillent voir... J'ai 210 autres films dans ma programmation. Ouais, 211. C'est ça qui joue évidemment à vitesse normale. Ouais. C'est une expérience, c'est une séance en particulier qui, voilà, qu'on a voulu un petit peu champ gauche. Mais c'est ça, ça fait partie de cette campagne. Et elle est juste un petit peu, effectivement, elle aussi iconoclaste, cette campagne. Mais voilà, c'est plus dans l'idée d'amener les gens à porter un regard critique sur ce qui se passe en ce moment.
Donc, ça cache pas une intention là, d'aller de l'avant avec cette façon de faire?
Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y en aura pas d'autres, je vous rassure. C'est ça, nous, on est plus dans la défense du cinéma québécois et de nos cinéastes et de nos artistes. Donc, voilà, c'est simplement... c'est ça, c'est plus un prétexte pour faire venir le monde à cette table ronde
et
après.
En discuter. Anne Aymon, dans la presse plus, aujourd'hui, elle dit pourquoi elle a accepté que son film soit présenté en vitesse accélérée et elle parle dans le même sens que vous, là, pour l'expérience et la discussion. Donc, 200 films d'ouverture, films de clôture. Pouvez-vous nous en parler, Laurent?
Certainement, certainement. On ouvre avec le film de Geneviève Duluth-Dessel, Nina Rosa.
Qui a eu un bel écho là, à l'international.
Qui a eu un beau retentissement. On est très fiers d'ouvrir avec le film de Geneviève. C'est un film lumineux, c'est un film fort, c'est un film sur l'exil, sur le déracinement. Et on clôture avec le film de Jennifer Allen, Kairos, qui est une première mondiale.
Avec Emmanuel Schwartz, je crois.
Ouais, ouais.
L'excellent Emmanuel Schwartz,
qui porte littéralement le film. Donc c'est ça, c'est justement un comédien sur le retour à Montréal qui anime une émission de radio la nuit, une émission autour de la philosophie. Donc voilà, et dans le fond, c'est ça, les auditeurs qui appellent, parce que c'est une émission effectivement interactive. Puis c'est ça, il y a des auditeurs qui appellent la nuit, des auditeurs donc qui travaillent de nuit, des nouveaux
émigrants.
Parce que
lui, il a de la difficulté à vivre de son métier de comédien.
C'est ça.
Alors il devient animateur de nuit.
Absolument.
Mais c'est un beau métier, peut-être
c'est
qu'il va changer son fusil d'épaule.
Donc c'est ça, l'idée, c'est simplement de remettre de l'avant le film d'auteur, le film des fictions. L'an passé, on a eu une édition très documentaire. Là, c'est ça, on cherche aussi à réitérer notre soutien au film de fiction.
Il y a aussi un volet jeunesse.
Absolument. Rendez-vous Super. Popcorn.
Alors, si on va voir toutes les informations, vous avez un beau site Internet bien fait avec la programmation date par date. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site?
Certainement. Mon Dieu, c'est toujours ce petit moment où je suis comme... oui. C'est québeccinéma.ca.
Québeccinéma.ca.
Et c'est ça, il y a toute la programmation des rendez-vous qui est là.
Alors, merci beaucoup pour cette belle visite, cette belle discussion. J'espère que François Delisle nous a entendu. Il va peut-être vous rappeler.
Peut-être qu'il va changer d'avis. Non, mais c'est ça. Je pense que nous, on respecte aussi sa décision, mais je pense que tout ça aussi est un malentendu sur nos intentions.
Seriez-vous une tempête dans un verre d'eau?
Je pense qu'on a effectivement réussi, c'est ça, à atteindre notre cible avec ce débat-là.
D'accord. Merci, Laura Rorard, et bon rendez-vous Québec Cinéma.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Yeah. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. But love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never
The Fate of Ophelia, c'est une chanson de Taylor Swift.
C'est maintenant l'heure de la chronique économie en compagnie de Michel Poitevin. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Un examen plus approfondi des conséquences de l'augmentation des prix du pétrole avec vous ce matin. La guerre en Iran se poursuit malheureusement et le prix du pétrole est toujours affecté.
Mais oui, de ce temps-là, depuis un mois et demi, là, la géopolitique détermine le prix du pétrole. Donc, des facteurs un peu non économiques, mais qui ont des impacts économiques importants. Avant la guerre en Iran, le prix du baril était autour de 70 $. La semaine dernière, il a monté jusqu'à un peu plus que 110 $. Puis là, ce matin, on est revenu à 97. C'est quand même une hausse de près de 40% par rapport à ce qu'on avait avant la guerre. Ça a baissé. Là, on est en bas des 100 $. C'est un peu la barrière psychologique. Là, les gens disent, bon, on est-tu en haut ou en bas de 100 $? On est un peu en bas parce qu'on a l'espoir que les négociations reprennent puis que le conflit se termine.
Ouais.
On espère bientôt, mais il n'y a rien d'assuré. Là. Les nouveaux développements, le président Trump a décidé à son tour de bloquer le détroit d'Ormuz parce que l'Iran le bloquait, mais laissait quand même passer les bateaux amis qui envoyaient son pétrole dans des pays en guillemets amis de l'Iran. Alors là, Trump a décidé que même ceux-là, ils ne passaient plus.
Au-delà de l'essence, Michel, comment on est affecté par le prix du baril de pétrole?
Bon, évidemment, l'essence, on y pense tout de suite, là, le transport par voiture, par camion, mais il y a aussi le transport aérien. Il y a plusieurs compagnies aériennes qui ont commencé à imposer une surcharge là, pour le prix de l'essence élevé sur leur billet d'avion. Donc, on voit que tout ce qui est relié au transport est affecté, mais le transport, ça affecte aussi les produits de l'agriculture qui sont transportés. Il y a un paquet de choses qui transitent par soit avion, fret ou camion. Ces produits-là vont être affectés. Mais il y a d'autres secteurs. Là. Évidemment, le secteur de l'énergie, on utilise beaucoup les énergies fossiles pour fabriquer de l'acier, du ciment, de l'aluminium, possiblement hors Québec. Là, nous, on est chanceux parce qu'on a de l'hydroélectricité. Mais dans plusieurs pays, le chauffage, la ventilation, ils n'ont pas le luxe qu'on a ou le loisir d'avoir l'hydroélectricité comme on l'a. Alors, souvent, l'électricité est produite à partir de centrales qui utilisent du mazout. Il y a également toute l'industrie pétrochimique. On fabrique des plastiques, des engrais. Donc, on utilise beaucoup les énergies fossiles. Donc, ça, ça va finir par se répercuter sur les prix si la guerre se prolonge. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu trop d'effets de ce côté-là. Les chiffres sur lesquels qu'on pourrait regarder, c'est en fin de semaine, vers la fin de la semaine dernière, aux États-Unis, on a publié les derniers chiffres d'inflation. Puis l'inflation a augmenté en février sur une base annuelle, on était à 2,4%. Puis là, en mars, on est à 3,3%, une hausse marquée, là, presque un point de pourcentage. Et puis c'est vraiment l'énergie qui augmente, le coût de l'énergie, l'essence à la pompe qui a augmenté de 21% aux États-Unis. Évidemment, c'est relié aux tensions géopolitiques là, en Iran puis au Moyen-Orient. Mais les prix hors alimentation et énergie n'ont augmenté que de 2,6% par rapport aux 3,3% pour l'indice général. Donc, on voit que ça n'a pas commencé à affecter beaucoup ou trop les biens qui sont pas directement affectés comme le prix de l'essence ou l'énergie. Mais si la guerre se prolonge, encore une fois, ça va avoir un impact. Au Canada, les chiffres vont sortir le 21 avril. Donc, la semaine prochaine, on devrait en parler. Là, habituellement, ça sort un petit peu avant la chronique. Donc, on va être capable de voir l'impact là, de la guerre en Iran sur notre taux d'inflation. Je rappelle qu'en février, au Canada, on était à 1,8%, ce qui était faible. Donc, la semaine prochaine, on verra ce qui arrive.
Bon, alors, vous le disiez, si la guerre se prolonge, on va ressentir les effets.
Oui.
Bon, quel genre d'effet, là?
Bien, c'est ça, là. Comme je disais, sur tous les biens, mais... Il va avoir aussi un impact sur la politique monétaire. Ça va être intéressant à suivre. Avant la guerre en Iran, les économies mondiales, la plupart ralentissaient un petit peu. C'était le cas au Canada. Puis les banques centrales, là, depuis plusieurs mois, avaient commencé à baisser les taux d'intérêt pour justement pas avoir un effet trop restrictif sur la croissance de l'économie. Mais là, avec la hausse du coût de l'énergie, ça va causer un espèce de casse-tête aux banques centrales. Pourquoi? Ben, le coût de l'énergie qui augmente, ça crée de l'inflation, comme on vient d'en parler. Mais aussi, ça va créer un ralentissement de l'économie pour les entreprises. Ça va coûter plus cher à produire. Donc, les gens vont moins acheter, puis l'économie va ralentir. Alors, quelle va être la politique monétaire? Si on regarde juste la composante inflation, on voudrait augmenter les taux pour réduire l'inflation, mais si un ralentissement, on voudrait les baisser. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes là, au niveau de la politique monétaire. Habituellement, la décision est assez facile. L'inflation est souvent causée par une surchauffe de l'économie, puis là, c'est clair, la banque centrale augmente un petit peu les taux d'intérêt pour augmenter le coût de l'emprunt ou du crédit dans l'économie, puis ça, bien, ça aide l'économie à ralentir un peu, puis ça réduit l'augmentation des prix. Mais ici, l'inflation est alimentée par une hausse du coût de l'énergie puis qui elle-même contribue au ralentissement de l'économie. Alors, qu'est-ce que la Banque centrale va faire? La prochaine annonce va être le 29 avril, donc dans à peu près 2 semaines, la Banque centrale va annoncer le taux d'intérêt. Donc, ça va être à suivre. On va voir au niveau économie là, un mois d'avril occupé. L'économie occupe le haut du pavé des manchettes. Là, ça va être à suivre. On ne manquera pas de sujet pour nos chroniques.
Non, certainement pas. Puis on a hâte aussi de voir qui sera le nouveau ministre de l'économie.
Effectivement, au Québec. Là,
oui.
Parce que madame...
si on revient madame, ici, là, oui.
Oui, exactement. Là, parce que là, on a une nouvelle première ministre. Alors,
sûrement,
il va y avoir un nouveau cabinet d'annoncer.
Oui.
Ça va être à suivre. Ça ne sera pas pour bien longtemps, mais quand même, ça se peut que ça ait un impact.
Oui, parce que dans l'air circule le nom de Bernard Drainville qui aurait manifesté son envie de devenir le ministre de l'économie. Je pense qu'il y a un autre mot aussi là, associé à ça, mais l'économie est dans son désir qu'il a manifesté auprès de Christine Fréchette.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que aux finances, ça me surprendrait qu'il change le ministre Girard.
Non, donc, moi aussi, ça me surprendrait.
Donc, d'après moi, lui, il va rester, mais effectivement, là, le ministère, comme vous dites, c'est pas le nom officiel, là, mais je pense que c'est commerce, économie. au développement économique. Bon, ce sera de voir M. Drainville, qui en général n'a pas occupé des postes économiques. Donc, ça va être intéressant à suivre.
Oui, on va pouvoir en reparler. Oui. Merci beaucoup, Michel, pour cette chronique. On se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
La magie de bon enfant pour cette chanson qui s'appelle « Magie ».
Nathalie Collard dans La Presse Plus, sa chronique est annoncée à la une de La Presse. Toujours trop ou pas assez. La coalition Avenir Québec, la CAQ, a choisi Christine Fréchette, une féministe assumée, pour remplacer François Legault. Notre chroniqueuse nous explique pourquoi cette décision la réjouit, même si les femmes font encore face aux deux poids, deux mesures en politique. Un jour, l'accession d'une femme au poste de première ministre sera peut-être quelque chose de banal. Ce ne l'est pas aujourd'hui. Christine Fréchette est seulement la deuxième femme de l'histoire du Québec à accéder au plus haut poste de l'État. La première, Pauline Marois, a été victime d'une tentative d'assassinat le soir de sa victoire. Ça ne s'oublie pas. Aux prochaines élections, avec Ruba Gazal chez Québec solidaire, il y aura donc deux femmes chefs de parti, deux femmes qui s'affichent comme féministes. C'est réjouissant. Pourquoi est-ce important que des femmes soient représentées en politique? Pour que la société soit plus égalitaire et parce que la présence des femmes a plusieurs impacts positifs, confiance envers les institutions, participation citoyenne, etc., selon l'OCDE. Depuis la nomination de Christine Fréchette dimanche, les analyses et les commentaires se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ça ne vole pas toujours très haut. Ce qui revient le plus souvent, Christine Fréchette est beige. Elle est trop réservée, trop prudente. Ah, ce trop dont on affuble les femmes dans l'espace public. Elles sont trop émotives, trop ambitieuses, trop loquaces, trop agressives, trop. Et quand elles ne sont pas trop, elles ne sont pas assez. Pas assez expérimentées, pas assez endurcies, pas assez souriantes. Bien sûr, les hommes aussi ont droit à des critiques, mais elles portent beaucoup plus rarement sur leur apparence physique et elles remettent rarement en question leurs compétences et leur légitimité dans l'espace public. Deux poids, deux mesures. Heureusement, les femmes ont compris qu'elles avaient mieux à faire que porter attention à ce bruit de fond insignifiant. L'autre analyse lue et entendue souvent depuis dimanche, c'est celle de la falaise de verre ou « glass cliff », un phénomène qui décrit le contexte de la nomination d'une femme à un poste de pouvoir quand le bateau coule, ce qui augmente son risque d'échec. Cette théorie, élaborée au milieu des années 2000, nous vient de deux chercheurs britanniques, Michelle K. Ryan et S. Alexander Haslam. J'avoue que c'est une théorie que j'allais appliquer sans hésiter à Mme Fréchette. La CAQ est au fond du baril, confions le parti à une femme. Mais en discutant récemment avec une ancienne ministre, mes certitudes ont été un peu ébranlées, crie Nathalie Collard. Elle me disait à quel point elle trouvait cette analyse réductrice. La candidate n'allait pas se sacrifier, insistait-elle. Elle y allait pour gagner. Je comprends son point de vue. Christine Fréchette croit sûrement en ses chances de gagner pour s'investir comme elle le fait. Reste que si la CAQ n'avait pas été en si mauvaise posture, François Legault ne serait pas parti. Cela dit, il faut reconnaître que les femmes profitent souvent des crises pour avancer. Quand il y a une brèche, elles s'y faufilent et transforment la situation en avantage stratégique. Après réflexion, j'aime bien la métaphore du labyrinthe élaborée par les chercheuses américaines Alice Eagly et Linda Carley. Au lieu d'un plafond ou d'une falaise de verre qui viendrait limiter la carrière des femmes, on parle d'un labyrinthe pour décrire leur parcours complexe, rempli d'impasses et de détours. Dans ce contexte, on reconnaît aux femmes leur esprit tactique et leur capacité à faire des choix. La falaise de verre est davantage vue comme un obstacle, pas comme une fin en soi. C'est une analyse qui laisse plus de place aux nuances, je trouve. Chose certaine, durant les prochains mois, qu'elle soit dans un labyrinthe ou sur le bord d'une falaise, Christine Fréchette sera un modèle pour les femmes qui sont tentées par la politique. La première ministre désignée l'a d'ailleurs raconté en point de presse dimanche. Des femmes lui ont dit être inspirées et vouloir se présenter à ses côtés. C'est une excellente nouvelle. En politique, recruter des femmes est un défi. Jocelyne Richer en parle dans son livre « Le sexe du pouvoir, politique au féminin, élus et ex-élus brisent le silence ». Le frein numéro un, c'est la maternité. La conciliation travail-famille, dit l'ancienne correspondante parlementaire. Sonia Lebel, qui a fait du recrutement à la dernière élection, me disait « c'est flagrant ». Tu sollicites un homme, il est flatté, prêt à dire oui le lendemain, et se demande quel ministère il va avoir. Les femmes, quant à elles, ont beaucoup plus tendance à hésiter et à se remettre en question, sans compter que plusieurs sont terrorisées par la joute politique et la confrontation. Le livre de Jocelyne Richer abordait aussi la question du fameux Boys Club, ces lieux informels où les hommes se retrouvent et d'où les femmes se sentent exclues. Quelle ne fut pas ma joie d'apprendre en lisant mon collègue Hugo Pilon-Larose lundi que Christine Fréchette fait partie d'un réseau de femmes de pouvoir qui se sont baptisées entre elles « Set in the City ». J'adore cet humour. Et surtout, j'adore que des femmes bâtissent des réseaux qui leur ressemblent. Maintenant, comme disait Carrie Bradshaw, « I couldn't help but wonder ». Est-ce qu'une femme peut sauver un parti en 6 mois sans y laisser sa peau? Et si elle perd son pari, peut-elle le faire sans qu'on remette en question la place de toutes les femmes en politique? C'est la chronique de Nathalie Collard d'aujourd'hui, toujours trop ou pas assez.
À la croisée des chemins, du début et de la fin, entre celle que j'étais et puis celle que j'ai fui, les brûlures qui ont guéri, les autres qui ont grandi, ont déposé sur mon cœur de vives ardeurs. Puisque tout a changé,
Le soleil est toujours une chanson de Maude Audet.
Le nombre de nouveaux cas de cancer en légère baisse au Canada. On s'attend à ce que le taux d'incidence du cancer baisse légèrement au pays selon un rapport de projection pour 2026 qui a été publié hier. Même chose pour la mortalité par cancer qui semble diminuer aussi. Cependant, cette maladie demeure la première cause de mortalité au Canada. En 2026, le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès devraient demeurer à des niveaux élevés, compte tenu de la croissance et du vieillissement de la population, indique le rapport. Ce dernier estime le nombre et le taux de nouveaux cas et de décès en 2026 pour 23 types de cancers par province et territoire et par sexe, en tenant compte du vieillissement de la population canadienne. On évalue qu'au pays, 254 100 personnes recevront un diagnostic de cancer et 87 900 mourront de la maladie en 2026. Comme pour les années précédentes, tous sexes confondus, les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont ceux du poumon, du sein, de la prostate et le cancer colorectal. Autre nouvelle tirée du Devoir d'aujourd'hui, Donald Trump critiqué pour sa publication où il apparaît en Jésus. L'image générée par intelligence artificielle qui représente Donald Trump en Jésus, publiée lundi par le président américain lui-même, a attiré une foule de critiques, ces dernières trouvant même écho chez des membres de la droite religieuse américaine. En fin d'avant-midi lundi, la publication a été supprimée du compte Truth Social de Donald Trump après y avoir passé plusieurs heures. Sur l'image, le président américain porte une toge blanche, blanc et rouge et descend du ciel en apposant une main brillante sur le front d'un malade couché sur un lit d'hôpital. Il est entouré de personnes en prière, d'avions de chasse, de la Statue de la Liberté, d'aigles, d'un grand drapeau américain et de soldats flottant dans le ciel. Affirmant que c'est bien lui qui avait publié l'image, Donald Trump a nié qu'elle le représentait en Jésus, disant qu'il croyait qu'elle le présentait comme un médecin. « C'était censé être moi en tant que médecin qui guérissait les gens », a-t-il soutenu devant les journalistes à la Maison-Blanche. L'ancienne représentante Marjorie Taylor Greene, qui fut une figure de proue du mouvement MAGA lorsqu'elle œuvrait en politique, a estimé dans une publication sur X que l'image partagée par M. Trump est plus qu'un blasphème. C'est un esprit de l'Antéchrist. À venir, une belle chanson reprise par Béris et la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Merci d'écouter Au quotidien.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté, je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfuirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais j'oserais défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et le mal. Si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté, je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Porte ma curiosité, redécouvrir ce qu'on a perdu, ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vu. J'irai où? Jusqu'à y faire la fête. de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier.
Version tout en délicatesse de Bérise, Je pars à l'autre bout du monde.
Oui, un bon succès, signé Paul Darèche. Et là-dessus, on s'en va en Gaspésie. C'est là où vous êtes, Anne-Marie Aubin?
Oui.
Bonjour, Anne-Marie. Aujourd'hui, bon. Vous nous parlez de deux livres. Je pense que ce ne sont pas deux livres faciles. Hein? Sortie de nuit par Marie Gagnon et l'autre s'intitule Ressac, écrit par Linda Dion.
Ouais, deux livres qui ont des points en commun, qui racontent pas du tout la même histoire, mais qui à la base parlent de deux femmes qui souffrent. Marie Gagnon, c'est pas son premier livre, elle a déjà publié de la poésie et des romans, et ce livre-là vient après plusieurs années après son dernier titre paru en 2016, donc à peu près 10 ans. Et c'est une femme qui est née à Laval, qui a connu une carrière littéraire. Et qui va tomber dans la consommation, la toxicomanie, et c'est ce qu'elle raconte dans cette histoire-là. L'histoire commence, il y a une fille qui lui ressemble beaucoup, là, qui est l'héroïne de l'histoire, et qui se trouve à l'UQAM et qui rencontre par hasard un professeur qu'elle a déjà connu quand elle était étudiante au cégep et lui avait enseigné la philosophie. Et bon, ben, il y a quelque chose entre les deux, là. On sent qu'il s'est passé des sentiments au-delà de la relation prof-élève, mais sans plus. Elle a une admiration démesurée pour lui. Et là, ben, elle le rencontre et il lui dit: Claudia, parce qu'elle s'appelle comme ça dans le livre, voudrais-tu me prêter 100 $? Alors, déjà, c'est étonnant qu'un prof, il est rendu prof et puis il y a un salaire qui lui demande 100 $. Elle lui en prête, aveuglée complètement, elle lui en donne 300. Ça aussi, c'est un peu étonnant. On comprend qu'elle est admirative complètement pour cet homme-là. Elle va le suivre. Et puis, bon, ben, il va l'entraîner peu à peu dans l'univers de la drogue. Et puis, la toxicomanie, la violence, ce qui vient avec. Et puis, pour avoir ce qu'elle veut, une femme qui prend de la drogue, ça coûte très cher, ben elle a deux choix, la prostitution ou le vol. Et elle, c'est par le vol de petites choses qu'elle va ramener finalement au pusher. Puis cet homme-là va plus la détruire qu'autre chose, mais elle en est complètement amoureuse, aveuglée. Et puis bon, ben plus tard, lui, il va mourir et puis elle va se retrouver dans la rue et ça va prendre des années avant qu'elle se remette de tout ça. Et pendant son séjour dans la rue, il y a des scènes qui nous sont décrites qui sont, ma foi, assez dures, surtout au début du livre. Et puis, peu à peu, bien, on apprend à la connaître et à savoir quel était son passé, ses relations familiales et puis son manque, finalement, qui fait qu'elle va s'amouracher comme ça de cet homme-là. Et puis, elle va croiser, à un moment donné, un avocat qu'elle a déjà rencontré, qui est devenu itinérant. Comme quoi, finalement, les gens de la rue viennent de partout. C'est pas nécessairement des gens qui sont pauvres. Hein. Il y en a qui peuvent finalement dégringoler. Et cet homme-là lui dit, l'avocat, tu sais, ce qui me manque le plus, c'est pas le confort, c'est le regard. Le regard des autres. Celui qui dit, tu comptes. Maintenant, on regarde mes pieds ou on regarde ailleurs. Et effectivement, elle passe beaucoup de temps à décrire ce malaise d'être dans la rue comme un déchet, même pire qu'un déchet, et le regard des gens, le malaise que ça fait de voir ces gens-là dans la rue. Elle va parler d'une jeune fille très innocente aussi qui va m'emmener se faire arrêter, une prostituée, le milieu des piqueries, des prisons, parce qu'elle va évidemment elle aussi est une détenue. Et puis elle raconte à un moment donné qu'elle s'attarde derrière la prison à un arbre qui est en fleurs. Et puis une fille qui était détenue, spécialiste en botanique, lui avait dit que ça prend 6 mois la floraison de la fleur jusqu'à finalement la flétrissure. Et elle s'accroche à cet arbre-là parce qu'elle a 6 mois à faire. Et la vie de cette fleur-là est égale au séjour qu'elle doit y vivre. Donc, il y a de très beaux passages quand même qui sont poétiques parce qu'elle dit « Ces bourgeons incarnaient une lueur au bout de mon tunnel, comme une lumière, effectivement. » Il y a des passages qui sont poétiques, il y en a qui sont sous forme réaliste avec des dialogues à l'intérieur. C'est parfois digne de l'horreur. Puis son parcours lent, mais sûr, vers la sobriété. Là, on en apprend sur la justice, comment finalement on peut avoir un pardon et son immense courage pour devenir une infirmière. Parce que c'est pas simple, vu qu'elle a un dossier, parce qu'elle a fait des vols. Bon, ben, elle ne pourra pas être acceptée tout de suite, ça va être très long. Et puis, bon, ben, à un moment donné, sa mère est décédée, puis on voit sa relation avec son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et tout ça n'est pas chronologique. C'est tous des petits chapitres qui sont disparates. Il y a une trentaine de fragments. Et on compose avec ça. Puis là, on fait des liens en disant, oh oui, gardons, c'est ça ici. Bon. Et on va voir comment elle va se sortir de cet enfer pour devenir une infirmière. Elle a une vraie vocation et elle nous décrit son travail dans le CHSLD, son attachement vers ces gens-là qui souffrent et qui n'ont pas d'issue. Parce que CHSLD, c'est un mouroir. Alors, c'est un récit qui finit bien, mais qui est très bouleversant, là, vraiment troublant, qui nous habite longtemps, et j'ai pas lu ça d'un trait.
Non.
Le début, je l'ai lu vraiment lentement pour assimiler tout ça. C'est des choses qu'on sait, mais qui sont décrites d'une façon très réaliste et qui nous touchent.
Est-ce que c'est bien écrit?
Oui, c'est très bien écrit. On voit qu'elle a une formation en littérature et qu'elle sait rendre ce qu'il y a dans son ventre, tout ce qu'elle décrit, les images qu'elle fait de ce milieu-là. Aussi, c'est beaucoup mieux féminin quand elle est incarcérée. Et puis la violence du monde de la drogue, il faut le dire, c'est fou. Alors, c'est un très beau livre qui, peu à peu, comme sa cure à elle, amène à la lumière. Et c'est un livre, c'est pas son premier, hein, elle en a écrit plusieurs, ça se sent. Bref, une histoire que j'ai beaucoup appréciée, malgré la gravité du sujet et du traitement.
Oui, une vie infernale à cause d'un amour-passion toxique. Mais au moins, il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui. Sortie de nuit, hein, ça le dit, par Marie Gagnon aux éditions XYZ. Et puis l'autre proposition, c'est aussi une histoire qui n'est pas Jojo du tout. Ressac par Linda Dion.
Bon, Ressac, d'abord, c'est le premier titre de nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le ventricule gauche. Ça a été créé cet automne par Éric Simard. Puis lui, il se dit que dans cette maison-là, il veut donner la parole à des voix libres, fortes, entières, pour raconter la complexité de l'expérience humaine. Et effectivement, avec celle-là, c'est vraiment ce qui se passe. Linda Dion, c'est une autrice qui est née en 1960 à Québec et qui a longtemps vécu dans le canton de l'Est à Sherbrooke avant de vivre à Montréal. Elle a publié plusieurs titres, c'est son cinquième titre, entre autres un titre qui s'appelle Grosse aux éditions Amac où elle parlait de son corps et de sa difficulté de vivre avec ce corps-là. Et puis ce roman-là, c'est une autofiction, qui a été, je dirais, provoquée suite à un choc qui s'est passé lors d'une rencontre, une table ronde dans une librairie, soi-disant féministe, qui est annoncée comme ça, où il y avait elle en tant qu'auteur littéraire, une personne qui parlait de la grossophobie sur un plan peut-être plus essai, et l'autre personne était un garçon. Mais bref, les autres, c'est pas des écrivains littéraires. Là. C'était des gens qui avaient écrit sur le sujet. Et puis, bon, ben, elle s'est trouvée au cœur d'un broglio, d'un malentendu pour avoir dit une phrase qui a choqué une personne dans la salle. Et je reviens au mot ressac, qui est le retour des vagues quand on frappe un obstacle. Elle s'est employée dans ce cas-ci pour vraiment décrire le choc qu'elle a subi, le trauma suite à ça. Alors, là, on peut dire qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle a été accusée de raciste par la dame parce qu'elle a sans doute utilisé le mot en haine. Puis dans ce temps-là, quand elle a publié ce livre en 2018, donc elle a dû aller là en 2019, le mot en haine et tous les mots qu'on a censurés, c'était pas là. On était juste un peu avant. Et sans vouloir faire quoi que ce soit de raciste, au contraire, elle a expliqué qu'il y a un phénomène qui est social, à mon avis. Certains peuples n'ont pas le même rapport au corps féminin que nous au Québec, par exemple, ici, où c'est vraiment la minceur, l'Europe, c'est pas mal ça. Et elle a parlé des pays comme l'Afrique, la Tunisie, bon, tout ça. Alors là, elle s'est fait accuser de racisme par une personne, puis là, elle essaie de s'en sortir, puis elle s'en sort pas.
Plus elle s'explique, plus elle s'enfonce.
Voilà. Elle dit ce jour-là de l'attaque, je me dilue, je perds en substance, je me rends à l'évidence et vaut mieux me taire, je me suis enlisée à force d'arguments tautologiques, je patauge dans la vase, j'ai la bouche pleine d'excréments que je ravale dignement, je consulte peut-être ma montre, combien de temps encore. Alors c'est une torture. Puis au fond, après, avec le recul, elle se dit que c'était peut-être pas si grave que ça. Il n'y a peut-être pas eu tant de réactions. Mais le lendemain, c'était sur la page Facebook de la librairie. Ça a pris une allure hallucinante sur les réseaux sociaux, comme les réseaux sociaux savent si bien le faire. Et elle ne se défend pas. Elle ne s'excuse pas. Elle fige. Elle ne sait pas quoi faire. Et puis là, ben, elle souffre. Elle souffre terriblement. Elle regrette. Là, ça tourne dans sa tête. Et là, ben, ce déclencheur-là va l'amener à écrire ce texte-là pour aller au fond d'elle-même et comprendre d'où vient cette culpabilité d'avoir dit ce mot-là et d'en faire un drame aussi important. D'où vient cette vulnérabilité? Et ce texte-là, c'est un texte qui explique d'où vient ce mal-là. Et c'est raconté au jeu, sans jamais de chapitre ni de point. Il y a des virgules. Et c'est bout à bout, là, toutes les pages qu'on lit sans arrêt. Il y a quelques virgules pour prendre le souffle, mais à peine. Et elle creuse très loin ses origines, son éducation, et on comprend tout.
Une grande remise en question, finalement.
Oui. Et puis, bon, ben, de savoir d'où tu viens, ça te permet de comprendre là, ce malaise-là qu'il faut plus vivre, effectivement, puis qu'elle a vécu à répétition. Alors, par exemple, à un moment donné, c'est la journée de la femme, le 8 mars, il y a une manifestation. Elle est adolescente, je crois, dans ce temps-là. Et puis, donc, elle vit avec ses parents, puis ça passe à la télé. Sa mère dit rien parce qu'elle comprend bien qu'elle devait être dans le groupe des manifesteurs. Son père, elle critique en disant, ouais, ces femmes-là sont bien mieux de rester à la maison puis s'occuper de leurs enfants. Et elle lui répond, et les pères, là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Là, il se fâche, il donne un coup de poing sur la table, puis il la met dehors, puis il dit, je te donne 2 semaines pour quitter la place.
Oh, ben, susceptible, monsieur!
Elle dit, ouais, laisse faire, moi partir. Et elle quitte sa famille. On sent là déjà là, qu'il y a un grand malaise, une difficulté de communication, et ça va se répéter plusieurs fois dans son histoire qu'elle nous raconte d'une façon très authentique, très intime. C'est une personne vulnérable, sensible, et qui n'est pas capable de gérer ces émotions-là et ces violences-là. Et peu à peu, elle va apprendre à se connaître. Et l'écriture, c'est la façon pour elle, comme pour l'autre roman que j'ai présenté, de faire le point, de se comprendre. Et elle est retournée à ses journaux intimes à un moment donné pour parler de ses premiers amours. Et ses premiers amours qu'elle raconte, c'est souvent avec des personnes africaines, tunisiennes. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas raciste, c'est bien elle. Elle tombe en amour avec ces gars étrangers qu'elle trouve très beaux, très sensuels, et qui ont effectivement un rapport différent par rapport au corps des femmes, si on compare avec les pays plus occidentaux.
C'est donc, justement ce commentaire-là qui va choquer.
Exact. Et puis, ben, justement, cette personne-là, elle nous dit qu'elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est entre les deux. Elle est probablement née de parents, justement, de deux peuples différents qui ont réussi à être un couple et avoir un enfant, ce qu'elle elle tente de faire. Et puis, bon, ben, il y a tout le malaise qui vient d'elle, qui vient de le public et de l'animatrice qui ne sait pas reprendre la chose. Puis, il fait très chaud, il y a une canicule. Rien ne va bien dans ça. Et ça a créé quand même une poussée pour qu'elle se mette à écrire ce livre-là des années après avoir écrit celui qui s'appelait Grosse et qui faisait le sujet de la table ronde. Donc, un beau livre pour aborder ce malaise-là de la force des mots, jusqu'où coup, un mot peut blesser quelqu'un d'autre. Puis le tort qu'il peut faire aussi. Alors, puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puis avec les mots qu'on peut plus dire, ça devient très délicat, effectivement, pour un auteur d'aller à une table ronde et d'être à l'écoute. Tout le monde va l'écouter, puis ils vont juger ses propos. Elle a peur, elle dit qu'elle est terrifiée à l'idée d'aller faire une rencontre comme ça pour parler de ses livres. Bref, deux livres qui se ressemblent finalement parce que deux personnes qui remontent d'un drame, d'un choc, parce qu'ils ont eu tous les deux, toutes les deux, un manque à l'enfance dans les rapports familiaux et les relations, et qu'ils ont, bon, chacune à leur façon, surmonté ces épreuves-là. Alors, c'est pas joyeux, mais je peux terminer juste en disant que si vous avez envie de rire, vous pouvez peut-être lire le titre lauréat du prix des collégiens, le livre de Maud Jarry qui oui. s'appelle La mère des larmes.
Vous l'aviez adoré, hein, je me souviens, vous en aviez parlé sur, ces, oui. sur les ondes.
Vous l'avez encore lu, Hélène, le livre?
Ben moi, j'ai commencé à le lire en vacances et puis après ça, ben j'étais dans le tourbillon du travail. Puis j'ai beaucoup de lectures à faire pour le travail, mais c'est sûr que je vais m'y remettre parce que c'est trop bon. J'aime son style, j'aime son ton. Oui. Je sais pas pourquoi là, je l'ai lâché, mais c'est pas parce que je l'aimais pas, au contraire.
Ben vous aurez la chance d'y retourner, comme ouais. les 61 étudiants qui ont choisi ce titre-là comme étant le livre de l'année.
Pour ah oui, vous étiez sur place hein, pour assister oui. à cette remise de prix.
Et je crois qu'un facteur très important, c'était l'humour, l'autodérision de l'autrice par rapport à son problème. Justement, elle en a tout un, elle aussi. Et c'est très féministe aussi. Alors, parce que tous les titres étaient bien sûr intéressants, mais celui-là est vraiment ressorti partout. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de filles aussi parmi les représentants des cégeps. Donc, c'est un livre féminin, là aussi. Et puis, je pense que ça promet, parce que c'est le premier livre, le premier roman de Maud Jarry. Elle a écrit des poèmes avant, mais donc, moi, je le suggère là, pour une lecture qui fait du bien attendant le printemps.
Ah oui. Il faut rappeler le titre, La mère des larves.
Des larves.
Et c'est écrit aux éditions de la Mer par Maud Jarry. Merci pour tout ça, très chère Anne-Marie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Mon ex essaie de revenir, j'ai dit que ça vaut pas la peine. C'est crazy parce que back then, j'aurais tout fait pour qu'elle revienne. Non, j'peux pas faire demi-tour, surtout si c'est toi. J'me suis promis quand t'es parti de plus mettre personne au-dessus de moi. Mais depuis j'me surfais, j'ai terminé tout ce que j'voulais être. Sans jamais en tous les jaloux, pis d'être ceux qui ont voulu être. Ça fait un bout de chez good, mais ça vaut rien si j'pas grace. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire, j'ai fait, pis j'ai pas l'intention de prendre un break. J'veux des lions devant mon creep, pis des chevaux dans mon whip. Schizophrène, parce parfois je partais tout seul, parlais au boulot et aux chaînes. I guess tu m'entends juste s'il y a du papier on the line. C'est normal si tu me sizes pas, homie, I'm one of a kind. Mais j'ai tout fait pour ce shit là, ça fait longtemps que j'ai jusqu'à là. Maintenant qu'il m'invite dans le gala, je fais pas semblant, mais la keep it a buck. Debout de ce stack, je fais 7 pieds flush. Le rap qui a pas rempli mes poches. Elle ment si je fais juste ça de ma vie. On croisera à ce point-ci. Chaque le whole team bar Paris fait un beau, c'est sur nous que je parie. Sorry si j'ai pris pour acquis. C'est pas juste une relation que je bâtis. Pas juste une relation que je bâtis.
Vous m'avez monté à mon grand bateau. Vous m'avez fait de bien comme vague.
Vous m'avez monté un beau grand bateau. Puis vu que ce vide c'est une
As Well, une chanson... Non, c'est le titre. Bateau.
Oui.
Et c'est chanté par As Well.
Oui, où on entend aussi la voix de Jerry.
Je sais, j'ai un peu...
La chanson Un beau grand bateau qu'on trouve dans ce bateau d'As Well. Luc Plamondon vend sa collection d'art aux enchères. Célébrissime parolier de chansons du Québec et de la francophonie, il met sa collection d'œuvres d'art en vente. Le fleurilège où dominent les signatures contemporaines québécoises sera exposé en tournée pancanadienne avec un arrêt à Montréal du 30 avril au 4 mai. Une portion de l'encan se déroulera ensuite en ligne du 7 au 28 mai pour une quarantaine de lots. Cet ensemble comprend des toiles, des œuvres sur papier et une sculpture de Pierre Ayotte, 6 pièces exceptionnelles signées Marcel Ferron, Serge Lemoine, Guido Molinari, Lise Gervais et Claude Tousignan seront vendues en direct au quartier général de Toronto de la Maison Eiffel le 21 mai. Les estimations les plus basses pour ce lot oscillent autour de 25 000 $ à 35 000 $. Les plus hautes atteignent 300 000 $.
J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Me voilà enfin au large. Radeau chaviré, la marée haute, perdu dans ton regard. Tant perdu à craindre l'étreinte, à éteindre la moindre flamme. Frontières disparaissent par tes mains, les mots d'amour deviennent sereins. J'apprivoise ta tendresse, je m'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Me voilà presque au rivage. Temps perdu à craindre l'étreinte, à étouffer la moindre chaleur. Frontières disparaissent par tes mains, les mots d'amour deviennent si simples.
Catégorie des chansons qui ne vieillissent pas, c'était « J'ai la tête en gigue » de Jimmy Bertrand.
Bien d'accord. La ville de Bécancour propose pour la première fois un événement dans le cadre du mois de l'autisme. Ça va se passer le 30 avril de 17h30 à 20h30. La population est invitée à une activité gratuite de rencontres, d'échanges et d'informations destinées aux familles et aux adultes vivant avec l'autisme. L'événement se tiendra à l'église multifonctionnelle de Bécancour, située au 3025 avenue Nicolas Perrault, secteur Bécancour. Et moi, demain, j'aurai l'honneur de rencontrer un auteur autiste qui viendra nous présenter son ouvrage. Restez avec nous!